Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci aux musiciens de nous avoir conduits dans ces moments de louange. Et ce matin, nous allons prendre notre dernier thème de cette série que nous avons commencé il y a quelques semaines maintenant. La Bible, un livre oppressif, point d'interrogation. Ce sera notre thème du jour. Et lorsque l'on entend cette phrase, il y a probablement plusieurs arguments qui nous viennent en tête, plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait penser que la Bible pourrait être un livre oppressif. Et ce matin, nous allons voir deux de ces raisons et réfléchir à que faire devant les passages qui pourraient nous laisser perplexes quant à cette question. Nous verrons donc, dans un premier temps, nous poserons la question, est-ce que la Bible est un livre sexiste ? Dans un deuxième temps, nous nous poserons la question de savoir si la Bible est une camisole de force avec toutes ses règles. Et dans un troisième temps, nous verrons que faire avec les passages qui peuvent nous laisser perplexes. Lorsque l'on pense aux raisons pour lesquelles la Bible pourrait être un livre oppressif, peut-être que la première raison qui nous vient en tête, en tout cas, je sais que c'est le cas pour beaucoup, c'est que la Bible est un livre sexiste. On peut avoir l'impression que la Bible a été écrite spécifiquement pour les hommes. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 26, Paul dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Paul dit dans ce verset, « Vous êtes tous des fils, et pas des fils et des filles. » On peut également remarquer, si l'on lit la Bible, que tous les auteurs sont des hommes, que les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient également des hommes. Pour nous, les hommes, cela peut être difficile parfois de comprendre que ces choses-là peuvent paraître oppressives pour l'autre moitié de la population, les femmes, et qu'elles pourraient se sentir peut-être oppressées par un tel déséquilibre de testostérone dans la Bible. Alors comment dire que Dieu n'est pas oppressif envers les femmes alors que l'on contraste un tel déséquilibre? Et pour mieux comprendre cela, il nous faut considérer le monde dans lequel a été écrite la Bible. La Bible a été écrite sur une période d'environ 1500 ans. Et dans ces anciennes cultures, des femmes étaient considérées comme moins que les hommes. Par exemple, le témoignage d'une femme, dans la plupart de ces cultures, n'avait aucune valeur. La femme ne pouvait pas hériter des biens de son père. Son père décidait, lorsqu'elle était toute petite, ou même parfois avant même qu'elle naisse, avec qui elle allait se marier. Et le Seigneur devait travailler avec ces cultures, telles qu'elles étaient à l'époque, pour se révéler à l'humanité et pour nous transmettre sa parole, la Bible. Alors, si l'on demande pourquoi la Bible a été écrite exclusivement par des hommes, bien, la réponse est tout simplement qu'à l'époque, certains hommes, pas tous, loin de là, avaient appris à écrire et à lire, mais que les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Il est donc bien logique que la Bible ait été écrite par des hommes. Et si ce n'était pas le cas, ça serait suspect, ou tout du moins un peu curieux. En fait, si l'on replace le récit biblique dans son contexte, on s'aperçoit vite que, loin d'être sexiste, la Bible semble au contraire donner une place d'égale valeur à celle de l'homme. Il y a quelques années, j'écoutais une prédication d'un pasteur new-yorkais sur ce verset, sur ce passage de la fin de Galates 3, où je le relis au verset 26, il dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Et le pasteur, qui était assez âgé, disait que dans sa jeunesse, quand il avait eu à prêcher sur ce message, sur ce texte, on était venu le voir en accusant la Bible d'être sexiste et d'exclure les femmes. Et cela jusqu'au jour où une femme est venue le voir après un message en lui disant que c'était son verset préféré dans toute la Bible. Alors, sur le coup, il était un peu étonné. Et puis, elle lui explique qu'en fait, ça fait juste quelques années qu'elle était arrivée aux États-Unis et qu'elle venait d'une culture très traditionnaliste. Une culture qui, quelque part, ressemblait un peu à ces cultures qu'il y avait à l'époque, au temps de Jésus. Et elle disait que pendant de longues années, au sein de sa propre famille, elle aurait préféré être un fils qu'une fille. Rappelez-vous que dans ces cultures, les fils avaient des privilèges que les filles n'avaient pas, notamment le fait de pouvoir être héritier. Et elle racontait au pasteur combien elle avait fondu en larmes la première fois qu'elle avait lu ce verset et qu'elle avait réalisé qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de favoritisme et qu'elle était considérée comme un fils. C'est-à-dire, sur le plan de l'héritage éternel, elle était considérée à égalité avec ses frères et ses sœurs. Vous voyez, ces mots « vous êtes tous fils de Dieu » avaient pour elle non pas un goût d'exclusion, mais bien au contraire un goût d'inclusion, parce qu'elle les lisait avec les lunettes culturelles appropriées. En effet, les deux derniers versets de Galates chapitre 3 disent « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier, conformément à la promesse. » Elle avait compris qu'elle était héritière de la vie éternelle. Encore plus que ça, la Bible semble même donner une place d'honneur à la femme. Nous avons vu, il y a quelques semaines, que plusieurs femmes sont inscrites dans la généalogie de Jésus au tout début du Nouveau Testament, dans les premiers mots de l'Évangile selon Matthieu. À l'époque, les généalogies représentaient un peu le pédigré de quelqu'un et servaient à mettre une personne en valeur. C'était quelque part le curriculum vitae de la personne. Et en disant « moi, je suis le fils d'un tel », cela pouvait ouvrir des portes, ou tout du moins susciter l'admiration. Et on peut bien comprendre, étant donné la place de la femme, qu'à l'époque, personne ne voulait inclure de femme dans sa généalogie. Eh bien, Jésus a fait que lorsque Matthieu a écrit son évangile, ses premiers mots, la généalogie de Jésus, dans les tout premiers versets, il inclut trois femmes qui sont mises à l'honneur. La généalogie était faite pour rehausser la personne de qui la généalogie était faite. Celle de Jésus, étant donné qui il est, sert non pas à le rehausser lui, mais à rehausser les personnes qui font partie de cette généalogie, et notamment ces femmes. On voit également à la fin des évangiles que le Seigneur a fait que ce soit des femmes qui soient les premiers témoins de sa résurrection. Ce ne sont ni des hommes ordinaires, ni même les apôtres de Jésus qui ont eu cet honneur, mais bien des femmes, dont Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques. Le Seigneur Jésus, et donc la Bible, nous montre bien que la femme a une valeur égale en dignité devant lui à celle de l'homme. Et même que parfois, elle a des honneurs tout spéciaux. Je ferai simplement remarquer que lorsque le verset dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, il ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Il veut dire qu'il n'y a plus de différence par rapport à la dignité, qu'ils sont égaux en dignité devant Dieu sur le plan du salut. Il n'y a évidemment pas aucune différence entre l'homme et la femme. Maintenant, l'homme ne peut pas accoucher au même titre que la femme. Dieu nous a créés hommes et femmes. Il nous a créés différents. Et au même titre qu'il a donné des dons différents aux croyants et qu'il parle souvent d'un corps pour décrire l'Église, en insistant sur le fait qu'aucun organe n'est supérieur à aucun autre, mais en insistant également que tous les organes ont des fonctions différentes, et qu'ils sont complémentaires, eh bien, il en va de même pour l'homme et la femme. De la même façon que ce serait dommage pour le corps d'avoir deux mains gauches ou deux mains droites, Ce serait bien dommage qu'il n'y ait pas de différence dans les rôles de l'homme et de la femme au sein de l'Église. Comme le dit Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il nous créa différents. Et Dieu les créa pour qu'ils avancent ensemble et se complètent l'un l'autre. Une deuxième façon avec laquelle on pourrait voir la Bible comme oppressive, c'est que l'on pourrait la considérer comme une camisole de force avec toutes ses lois et ses règles à respecter. Beaucoup de gens athées, en observant les chrétiens, se disent que quand même, ils passent à côté de la vraie vie, ces gens-là, à respecter toutes leurs règles, à ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avant le mariage, à ne pas pouvoir faire la fête tous les soirs et se saouler, à devoir contribuer financièrement à l'avancement de l'Église. Et pire encore, leur livre, la Bible, dit qu'ils doivent aimer tout le monde, et même leurs ennemis. Si seulement ces gens-là voulaient bien enlever leur camisole de force et s'affranchir de toutes leurs règles, ils pourraient enfin goûter à la vie en abondance. Le problème, c'est que la chose n'est pas si simple. Comme le disait Victor Hugo, et je paraphrase, « Lorsque les gens ne sont plus soumis aux règles, ils ont l'impression d'être libres, alors qu'en réalité, ils sont perdus. » Nous avons été créés par Dieu pour être dans une relation éternelle avec lui et lui obéir. Mais comme Adam et Ève dans le jardin qui ont voulu vivre indépendamment de lui, aujourd'hui l'homme a tendance à vouloir s'émanciper de son Créateur. Vouloir s'émanciper de son Créateur jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ vient le chercher, ouvre les yeux de son cœur et qu'il reconnaisse à quel point son Père éternel l'aime. Et à quel point il a été stupide d'aller chercher son bonheur autre part qu'en lui seul. À ce moment, celui qui pensait que la voix de Dieu était oppressive éprouve un réel bonheur à l'entendre. Réel bonheur qui est seulement tempéré par la honte d'avoir mis si longtemps à l'écouter. Se soumettre à la loi de Dieu, c'est avoir la vie prévue par notre Créateur. Pour illustrer cela, je voudrais vous proposer une image. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Imaginez que vous fassiez un bond dans le temps et que vous vous retrouviez dans les années 1600, au beau milieu de la campagne. Vous vivez avec vos animaux et votre champ et vous n'avez aucune connaissance de ce qui va venir dans les siècles suivants. Et imaginez qu'un beau jour, vous et tous vos voisins vous receviez de façon miraculeuse, tombé du ciel, un smartphone. Naturellement, vous n'avez aucune idée de ce à quoi cet objet étrange peut bien pouvoir servir. Vous vous dites qu'il doit bien avoir un but, mais vous ne savez pas lequel. Alors, vous observez l'objet, vous voyez qu'il a l'air assez aérodynamique. Et vous vous dites que peut-être cet objet a été prévu pour la chasse. Ou peut-être qu'il a été prévu pour la guerre. Et puis, vous vous dites que de toute façon, cet objet, il est à vous. Et que c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Alors vous observez votre voisin et vous voyez qu'il a commencé à s'en servir comme d'une petite pelle pour retourner la terre. Que notre voisin s'en sert comme d'un jeu et s'entraîne à le lancer le plus loin possible. Et sans qu'ils s'en aperçoivent vraiment, leur smartphone est en train de s'abîmer. Alors, vous vous demandez, vous, ce que vous pourriez bien en faire. Et là, vous remarquez qu'avec votre smartphone, vous avez reçu un mode d'emploi. Alors, vous vous dites que peut-être ce téléphone, ce smartphone, a un créateur et que le Créateur l'a construit pour un but bien précis. Vous vous dites qu'après tout, ça serait bien logique, étant donné la complexité de cet appareil. Alors, vous vous mettez à étudier le mode d'emploi et vous découvrez toutes sortes de merveilles à propos de cet objet étrange. Vous découvrez qu'on peut l'allumer. Vous découvrez qu'il y a des touches digitales. Vous apprenez à communiquer avec les autres qui, eux aussi, ont eu le bon sens de lire la notice et de la respecter. Alors c'est vrai que parfois c'est pas facile de supporter les moqueries de ceux qui ignorent la notice et qui veulent se servir de cet objet comme ils le veulent, qui le lancent contre quelques murs juste pour le plaisir de le faire, ou alors qui s'en servent pour curer les crottes de leurs bestiaux. Et qui vous disent, eux, en vous voyant assis dans un coin en train de téléphoner à un ami, « Ah, mais il faut profiter de ton smartphone, la vie est courte !» Laisse tomber cette notice qui est tellement oppressive. Et fais ce que tu voudras de ton smartphone. Ils vous disent cela sans se rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de profiter de votre smartphone 10 fois plus que ce qu'eux sont en train de le faire. Et parfois, c'est vrai que c'est difficile de résister à la tentation de faire comme tout le monde, mais vous vous en abstenez. Vous vous abstenez de faire comme eux parce que vous vous rendez bien compte qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ne va pas avec ce cadeau. Ils sont en train de le détruire. Et parce que vous, en suivant le mode d'emploi du Créateur, vous trouvez une joie toute particulière, une joie qui, quelque part, n'est pas de ce monde des années 1600, une joie et une liberté de pouvoir vous servir de cet objet, comme son Créateur l'a voulu. Dans mon illustration, vous l'aurez peut-être compris, le smartphone que vous avez reçu, ce cadeau précieux, c'est votre vie. Le mode d'emploi, c'est la Bible, la parole de Dieu. Les gens autour de nous, dans le monde, utilisent ce cadeau, leur vie, d'une façon contraire à la volonté de leur Créateur. Alors ils s'abîment, ils s'usent, et ils ne profitent pas pleinement de leur vie. Ils pensent être libres, ils disent avoir la vie en abondance. Mais au fond d'eux, quand ils sont seuls, le soir, tard, ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Je me rappellerai toujours cet évangéliste américain qui avait pour déguisement, pour costume, une pancarte avec marqué sur le devant « Je suis esclave de Jésus-Christ ». Alors, lorsque les gens voyaient ça, ils allaient vers lui et ils lui disaient « Mais non, tu n'as pas besoin d'être le serviteur de qui que ce soit. » Et puis, il se retournait et sur le derrière de la pancarte, il y avait marqué « Et toi, de qui es-tu l'esclave ?» Alors les gens s'empressaient de leur dire que, de lui dire que justement, eux, ils n'avaient pas de maître, qu'ils étaient libres. Et la conversation commençait comme ça. L'apôtre Paul dit clairement dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, que l'homme n'est en aucun cas libre au sens de ne rien avoir qui dirige sa vie. La vraie liberté biblique, ce n'est pas de ne pas avoir de maître, mais c'est de passer de mauvais maîtres qui dirigent notre vie. Des idoles comme l'argent, le pouvoir, la notoriété et les choses semblables qui vont produire en nous ce que la Bible appelle les œuvres de la nature humaine. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, etc. Toutes ces choses qui détruisent notre vie, ce précieux cadeau que nous avons reçu. La vraie liberté biblique, c'est de passer de ses anciens maîtres à Jésus-Christ, qui va produire en nous le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de maître, alors choisissons le bon maître. Mais nous ne pouvons pas non plus avoir deux maîtres. Soit notre maître sera notre nature propre, soit nous serons esclaves du péché, ou alors nous serons, notre maître sera Jésus-Christ, qui produira en nous la vraie liberté et le fruit de l'Esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il dit ensuite « Je suis le bon berger. » Il est le bon maître. Jésus est le bon maître. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Bien loin d'être oppressive, Les règles et les lois de Dieu qu'il nous donne dans sa parole ont au contraire pour nous un goût de liberté pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Ce matin, j'ai pris deux des raisons qui me semblent revenir le plus souvent quand les gens accusent la Bible d'être oppressive. Mais Dieu est également accusé injustement de toutes sortes d'autres méfaits oppressifs. C'est un Dieu qui envoie des gens en enfer alors qu'il pourrait pardonner à tout le monde et faire que tout le monde soit sauvé. Ou alors, c'est un Dieu jaloux qui ne supporte pas qu'on donne gloire à qui que ce soit d'autre que lui. C'est un Dieu qui torture son peuple pendant 40 ans dans le désert après lui avoir fait passer 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est un Dieu qui joue avec nous comme un prédateur avec sa proie, comme un chat joue avec une souris avant de la tuer, qui n'hésite pas à prendre des paris avec le diable sur comment le pauvre Job va endurer la souffrance. Et peut-être vous avez encore bien d'autres passages dans votre tête qui pourraient laisser entendre que notre Dieu, le seul Dieu véritable, celui qui a créé les cieux et la terre, est un Dieu oppressif, un Dieu injuste, cruel, sans compassion et sans amour. Mais alors qu'en est-il réellement? Et que répondre à tous ces autres chefs d'accusation? Et si jamais un jour on tombe sur une question à laquelle on n'arrive pas à répondre? Ou pire encore, et si jamais un jour on tombe sur un passage que l'on ne comprend pas encore vraiment et où Dieu nous apparaît oppressif, même à nous qui avons cru en Jésus-Christ? Est-ce que notre foi s'écroule pour autant? Par exemple, une personne proche de moi, qui avait commencé à lire la Bible, s'est arrêtée en concluant que Dieu était un juge cruel et oppressif lorsqu'elle a lu 2 Samuel chapitre 6, où le roi David est en train de transporter l'arche de l'Alliance avec l'intention de l'amener à Jérusalem. Il est écrit, je vous lis dans 2 Samuel chapitre 6, les versets 6 à 8. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nakhon, Uzza qui était une des deux personnes qui conduisait le char sur lequel l'arche était, Uzza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérets Uzza. Et après avoir lu ce passage, cette personne, qui n'est autre que ma mère, m'a dit « Et ce pauvre Uzza, parce qu'il a voulu faire quelque chose de bien en retenant l'arche pour ne pas qu'elle tombe, l'Éternel, dans sa colère, l'a tué. Mais c'est injuste et cruel. » Dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 3, Paul dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il ne faut surtout pas que l'on néglige les passages qui nous posent problème, car c'est souvent au travers de ces passages-là que le Seigneur a des choses à nous dire, pour nous enseigner, ou nous convaincre, ou nous corriger, ou nous instruire dans la justice. Par exemple, pour ce passage, je pense que le Seigneur veut nous instruire sur sa sainteté et nous dire que personne ne peut s'approcher de lui par sa propre justice, quelles que soient ses intentions. Et nous voulons être dans la présence de Dieu. David voulait être dans la présence de Dieu, mais après cette scène avec Uzza, quand il voit ça, il est troublé et il envoie l'arche chez quelqu'un d'autre. Et en voyant que le Seigneur lui faisait du bien, après 3 mois, cette personne chez qui l'arche avait été envoyée, David l'a fait revenir chez lui, à Jérusalem, dans sa maison. Mais vous voyez, avec cette tension qui est « je veux être proche de l'Éternel, mais je ne peux pas m'en approcher trop non plus. » Et à la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons pleinement l'amour que Dieu nous manifeste en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ, le seul à pouvoir légitimement s'approcher pleinement du trône de Dieu. Et par le sacrifice et la résurrection duquel nous pouvons nous aussi devenir enfants adoptifs de Dieu et ainsi nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Lorsque nous tombons sur des passages que nous ne comprenons pas et où Dieu nous apparaît oppressif, je vais simplement dire quatre choses. La première, c'est que si l'on replace ce qui a été écrit dans son contexte historique et son contexte social, on se rendra vite compte que la plupart des accusations contre Dieu n'ont pas lieu d'être. Mieux encore, si l'on place la scène dans son contexte global biblique, alors non seulement le passage gagnera toute sa pertinence, mais il revêtira également une beauté toute particulière, teinte de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. La deuxième chose que je vais dire, c'est que si l'on lit attentivement certains passages où le peuple de Dieu fait le mal, on se rend vite compte que Dieu ne préconise pas ce mal. Par exemple, si l'on dit que Dieu encourage la polygamie parce que Salomon a eu 700 femmes, c'est que l'on n'a pas lu le texte très attentivement, car en réalité, c'est justement parce que Salomon a eu toutes ces femmes qu'il s'est détourné de l'Éternel, ce qui va conduire à la séparation en deux royaumes et plus tard à la déportation de Juda à Babylone. La troisième chose, c'est que parfois, dans la Bible, Dieu est décrit comme un lion. Et comme le disait l'écrivain C.S. Lewis dans les Chroniques de Narnia, ce n'est pas un lion apprivoisé. Cela veut dire que, premièrement, on ne peut pas le tenir en laisse et le faire sauter par des cerceaux. Autrement dit, Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Une sœur d'Agapé Campus Montpellier nous rappelait cette semaine que la prière, ce n'est pas s'approcher de Dieu pour prendre de sa main, mais c'est s'approcher de Dieu et de prendre sa main dans la nôtre. Et deuxièmement, le fait qu'il ne soit pas apprivoisé, cela veut dire que nous devons nous attendre à ce qu'il fasse des choses auxquelles justement on ne s'attendra pas. Des choses que l'on ne comprendra pas. Et quelque part, c'est rassurant. Si Dieu n'était qu'une invention intellectuelle de l'homme, alors il ne pourrait pas nous contredire, nous étonner, nous surprendre et parfois nous laisser perplexes. Mais il ne pourrait pas non plus nous aimer, nous sauver et nous montrer le chemin qu'il a prévu pour nous. Et la quatrième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est que nous devons apprendre à exprimer notre frustration à Dieu dans nos prières, tout en restant pleinement attaché à lui. Je pense qu'il existe principalement deux types de relations. Si un patron fait quelque chose qui ne plaît pas à son employé, premier type de relation, ce dernier n'aura même pas besoin de se mettre en colère. Il va simplement rédiger une lettre et lui dire « Là, vous avez fait quelque chose qui ne me plaît vraiment pas. » Et je ne peux pas continuer de travailler pour vous. La relation est finie et ils ne se reverront plus jamais. Mais si un fils est en colère contre son père, il ne va pas lui écrire une lettre en lui disant « Là, papa, tu m'as donné des brocolis, des carottes, du jus de betterave toute la semaine, alors que je voulais des frites, du coca et de la glace. Je ne peux plus tolérer ça. Je pars. On ne se reverra plus jamais. » Non. Ce que va faire le fils, c'est qu'il va se mettre en colère. Il va pleurer, il va taper du pied, il va se tirer les cheveux. Il va exprimer sa frustration à son père. Il va se lamenter. Mais jamais l'idée ne lui viendra de partir loin de son père. Peut-être que son père lui donnera plus de frites. Peut-être pas. De toute façon, le père sait mieux que son fils ce qui est bon pour lui, et il lui donnera. dans cette relation que nous avons avec Dieu, où parfois il nous contredira, parfois il nous mettra en colère et nous donnera l'impression d'être oppressif, nous devons nous souvenir que nous sommes ses enfants bien-aimés et que nous ne nous soumettons pas à un patron, mais que nous craignons un père. Il y a quelques semaines, un ami me disait qu'un de ses passages préférés de la Bible, c'est le psaume 88. Alors voici comment il se termine, ce psaume. « Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu ? Pourquoi me caches-tu ton visage ? Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. Je subis tes terreurs et je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent tout le jour comme l'eau. Elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Mes intimes, ce sont les ténèbres. » Point. Cet ami me disait que ce psaume le rassure. Car dans ce psaume, il voit quelqu'un d'autre que lui, un auteur biblique qui souffre, qui ne comprend pas et qui se sent oppressé par Dieu et qui, à la fois, n'hésite pas à lui exprimer toute sa frustration, mais qui aussi, à la fois, reste complètement attaché au Seigneur. Enfin, pour conclusion, je dirais que nous devons comprendre et nous devons recomprendre jour après jour que celui que nous pouvons parfois accuser d'oppression est celui qui a réellement été opprimé pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur. Le pasteur Samuel nous disait la semaine dernière que les plus belles œuvres d'art produites par l'homme sont belles justement parce qu'elles reprennent la plus belle des histoires qui fait vibrer notre cœur, l'Évangile. Et un de mes passages préférés de l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables, c'est le moment où Fantine rencontre Jean Valjean. Elle est alors en prison et bien qu'elle ne l'ait jamais rencontré, elle est en colère contre lui. Et à ce moment-là du récit, Jean Valjean, lui, c'est Monsieur Madeleine, le maire de la ville. Et lorsque Fantine le voit, elle n'hésite pas à l'insulter et à lui cracher au visage, car elle pense que c'est lui son oppresseur et l'auteur de tous ces maux. Mais malgré les crachats et les insultes, Monsieur Madeleine, Valjean, se tourne vers le vrai oppresseur de Fantine, qui est Javert, et il lui dit simplement: libérez cette femme. Il s'ensuit une lutte légale entre les deux hommes où quelques articles de loi sont cités et le libérateur gagne. La Fantine est justifiée et elle peut être remise en liberté. Permettez-moi de vous lire le passage en question où Fantine, on voit la réaction de Fantine et ce qui se passe dans son cœur au moment où elle comprend qu'elle est en présence de son libérateur. Dans cette lutte entrevue à travers les grossissements de l'épouvante, ces deux hommes lui étaient apparus comme deux géants. L'un parlait comme son démon, l'autre parlait comme son bon ange. L'ange avait vaincu le démon. Et, chose qui la faisait frissonner de la tête aux pieds, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait. Ce maire, qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ses maux, ce Madeleine. Et au moment même où elle venait de l'insulter d'une façon hideuse, il l'a sauvée. S'était-elle donc trompée? Devait-elle donc changer toute son âme? Elle ne savait, elle tremblait. Elle écoutait, éperdue, elle regardait, effarée, et à chaque parole que disait Monsieur Madeleine, elle sentait fondre et s'écrouler en elle les affreuses ténèbres de la haine et naître dans son cœur je ne sais quoi de réchauffant et d'ineffable qui était de la joie, de la confiance et de l'amour. Peut-être on peut se sentir opprimé par certains passages bibliques que l'on ne comprend pas encore complètement. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu a prouvé son amour envers nous, car alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. et plus nous comprendrons et méditerons cette vérité. Et plus, comme Fantine, les affreuses ténèbres de notre cœur de pierre s'écrouleront, pour laisser place à un cœur de chair qui se remplira d'amour, de joie et de paix devant notre libérateur Jésus-Christ. Prions. Notre Père, notre Dieu, on veut venir vers toi, on veut te remercier parce que tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, alors que nous étions encore en prison, que nous crachions sur toi parfois, toi, tu nous as simplement libérés, tu nous as justifiés. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te rendre honneur pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, je te prie également que tu nous donnes, lorsque l'on ne comprend pas ce que tu es en train de faire dans nos vies, lorsqu'on te sent oppressif envers nous, je te prie que toujours tu puisses nous donner le bon sens de rester attachés à toi et de rester solidement attachés à cette vérité sûre et certaine que tu nous aimes et que tu l'as prouvée en nous donnant ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes de lire jour après jour et ta présence dans nos vies. En ton nom précieux, Jésus-Christ. Amen.